Chers amis, nous allons ouvrir nos Bibles dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 31, et nous irons jusqu'au chapitre 14, verset 1er. 1 Corinthiens 12, 31, 14, verset 1er. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. Nous avons commencé cet après-midi à développer quelques grands axes, quelques principes importants dans toute approche de l'Église communauté de service, dans ce qu'on appelle communément les dons spirituels. Tout d'abord, nous avons affirmé, Bible en main, que nous étions tous, chacun pour notre part, directement concernés et pratiquement concernés par la question des dons spirituels. Il est impossible d'être membre du corps de Christ et de prétendre pouvoir faire la grève sans que cela ait des répercussions nuisibles à la santé, à la croissance et au témoignage de l'Église locale à laquelle nous appartenons. Nous avons mis en évidence ce petit adverbe dont nous avons remarqué l'unanimité de présence dans les textes essentiels concernant les dons, que ce soit sur les lèvres du Seigneur Jésus. Nous avons vu deux textes des évangiles, que ce soit sous la plume de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, ce petit adverbe, chacun. Chacun. Notre deuxième remarque, en fait entamée, nous allons aller plus loin ce soir, sans trop nous y arrêter. Nous avons souligné que les listes, ou la totalité des noms de dons spirituels figurant dans les quatre principaux passages sur ces dons dans le Nouveau Testament, cette liste était une liste indicative, non limitative, représentative des richesses infiniment variées de Dieu. Alors ce soir, on va faire une petite révision, vous allez peut-être m'aider un petit peu, ça nous évitera d'avoir sommeil trop tôt, n'est-ce pas? D'après vous, quels sont les quatre grands passages dans le Nouveau Testament qui traitent directement de cette question des dons spirituels? Oh, je ne vous demande même pas de me donner les versets, on sera généreux, on se contentera tout au moins déjà des chapitres. Alors, qui va m'aider? Romains 12, alors quelqu'un d'autre? Éphésiens 4, quelqu'un d'autre encore? 1 Pierre 4, ça c'est conjugal. Encore quelqu'un d'autre? Ah oui, ça c'était très important. 1 Corinthiens 12 à 14. Hein, sachant que les divisions en chapitres et en versets, y compris d'ailleurs les titres et sous-titres qui sont donnés, ne sont pas inspirés. Il faut le dire, parce que parfois, ces divisions nous jouent des tours. Les textes ne sont pas forcément toujours bien découpés comme nous le souhaiterions. Peut-être cela vient-il du fait que le premier à avoir fait ce découpage pour nos Bibles, en chapitres et en versets, était un homme de Dieu qui, si je me souviens bien, peut-être au début du XVIIe siècle ou à la fin du XVIe en tout cas, parcourait une route à cheval, je crois que c'était entre Paris et Strasbourg, mais peu importe, et c'est sur son cheval qu'il a fait la division de nos Bibles en chapitres en versets. Alors on dit très souvent, un petit peu avec humour, que de temps en temps, le cheval avait quelques problèmes, et c'est au moment où il y avait des sursauts un peu particuliers qu'il y avait un décalage dans les notes et qu'on a obtenu quelques défauts dans le découpage de nos Bibles. Mais ça, c'est de l'humour, bien entendu. Donc, quatre textes. Romains 12, 1 Corinthiens 12 à 14, Éphésiens 4, 1 Pierre, chapitre 4. Nous avons souligné donc qu'il s'agit d'une liste indicative, une vingtaine de dons variés. Nous avons souligné que quantité de dons spirituels ont été et sont exercés dans l'Église qui ne figurent pas dans les listes du Nouveau Testament. Nous irons plus loin d'ailleurs dans ce domaine. Nous devons tenir compte de la globalité, de la totalité des Écritures, et nous avons évoqué par exemple des dons de type artistique, artisanaux, nous aurions pu dire, parce que la construction du tabernacle, hein, c'était un travail aussi d'artisanat, un travail tout à fait matériel, et il y a un certain nombre de dons spirituels qui ont une forte connotation matérielle. Nous vivons sur la terre. Et Dieu aussi suscite des hommes et des femmes qui ont des dons dans ce domaine-là. Mais j'irai un peu plus loin pour préciser ces choses tout à l'heure ou demain matin. Peut-être faut-il préciser dans cet ordre de choses que les listes que nous avons dans ces textes mentionnés tout à l'heure sont très diverses. Chaque liste contient des dons qui ne figurent pas dans les autres listes. Ce qui sous-entend que, dans le fond, tout dépend aussi des situations locales. Paul tient compte de la situation des églises auxquelles il écrit. Et en fonction de leur situation et de leurs besoins, il évoque certains dons plutôt que d'autres. Mais ça ne veut pas dire que l'apôtre Paul se soit senti obligé de fournir dans ses textes la liste de la totalité des dons possibles et imaginables en œuvre dans l'Église de Jésus-Christ. Vous imaginez les listes que nous aurions eues, n'est-ce pas ? Et 1 Corinthiens serait devenu, comme certains livres de l'Ancien Testament, de véritables tables généalogiques, hein, mais des dons spirituels. Puis il me semble que nous devrions ici procéder, comme on dit, par analogie. C'est-à-dire réfléchir quelque peu au fait que Dieu est le créateur de l'homme. Et quand nous considérons l'homme comme création de Dieu, et que nous essayons de comptabiliser le nombre d'organes qui sont à l'œuvre à l'intérieur, dans notre corps, dans les limites de notre corps, c'est époustouflant. Vous savez que, même encore aujourd'hui, malgré toutes les découvertes dans le domaine médical et scientifique, on n'arrive pas à cerner la complexité et la multiplicité des fonctions à l'intérieur du corps humain. C'est un domaine extrêmement vaste, et il est vaste par le fait que Dieu en est le créateur, et que Dieu, en quelque sorte, a projeté son intelligence sublime, extraordinaire, dans ce couronnement de sa création qu'est l'homme. Alors, vous pensez que l'Église, le corps de Christ, nouvelle création de Dieu, pourrait avoir moins d'organes, moins de fonctions que le corps humain ? Est-ce que Dieu serait plus pauvre pour le corps spirituel qu'est l'Église, qu'il l'a été pour notre corps simplement humain ? On a du mal, n'est-ce pas, à l'envisager. Dieu est d'une grande richesse, nous le croyons, dans ce domaine. D'ailleurs, il y a dans 1 Pierre chapitre 4, un texte que nous avons lu cet après-midi, une petite note qui nous guide aussi dans cette direction. 1 Pierre 4, 10, comme de bons intendants, de bons économes, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mettent au service des autres le don qu'il a reçu. Les diverses grâces de Dieu. On aurait pu traduire autrement. On aurait pu traduire les grâces variées de Dieu. Et le terme qui est utilisé ici dans le texte original, c'est un terme que nous pourrions par exemple rendre par le mot multicolore. C'est un mot utilisé, par exemple, pour décrire certaines qualités de marbre aux couleurs très particulières, ou encore des tissus brodés, des tapis d'Orient aux couleurs variées et très changeantes. Donc il y a derrière ce qualificatif aussi une idée de grande variété dans la richesse de la grâce de Dieu et de ses dons. Il faut enfin souligner aussi que certaines listes indiquent des catégories de dons et non pas les dons individuels. C'est le cas précisément de 1 Pierre 4, versets 10 et 11, où vous avez simplement deux catégories de dons. L'apôtre Pierre ne va pas plonger en profondeur dans une analyse des dons comme le fera davantage l'apôtre Paul. Il va dans deux lignes extrêmement condensées résumé des enseignements très importants. Alors là est un enseignement général. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, il est question ici du mot service, qui a donné le mot diacre en français, ou diaconat, ou diaconie, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, etc., n'est-ce pas ? Alors ici, vous avez deux catégories de dons. L'apôtre Pierre laisse clairement entendre que dans l'Église de Jésus-Christ existent des dons qui tournent autour de l'utilisation de la parole, les premiers,
Si quelqu'un parle, et il ne doit pas le faire n'importe comment, il faut qu'il annonce véritablement les oracles, le message, le fardeau de Dieu, littéralement. Et puis, il existe une autre catégorie de dons, si quelqu'un remplit un ministère, un diaconat, et il y a là une dimension de service beaucoup plus pratique, infiniment variée, qui d'ailleurs transpire de certaines des listes du Nouveau Testament. Peut-être encore une dernière remarque, que je ne vais pas fortement développer ici ce soir, mais nous devons faire attention... parce que nous sommes européens, nous ne sommes pas des orientaux, nous ne sommes pas des hébreux, par exemple, et nous avons cette tendance à des classifications trop strictes, trop pointues. Nous sommes tentés d'être des maçons lorsque nous contemplons l'énumération des dons, et nous avons donc tendance à monter des cloisons en mettant chaque don bien à l'intérieur de ses murs. Et on crée ce qu'on appelle des stéréotypes rigides. Ça, c'est notre esprit cartésien, rationnel, occidental. Nous devons tout d'abord nous souvenir que le même croyant peut remplir plusieurs fonctions correspondant à plusieurs dons qui se chevauchent, qui s'interpénètrent. Manifestement, l'apôtre Paul avait un certain nombre de cordes à son arc. Il avait, de manière très claire, un don d'enseignement, une charge de docteur. Nous savons qu'il était aussi apôtre, c'est ainsi qu'il se nomme, et cela correspond aussi à une charge. Il avait un ministère dans le domaine de la guérison pendant un certain temps, dans sa vie. C'était un administrateur et un stratège absolument remarquable. Il avait donc toute une série de dons à son actif. Barnabas, manifestement, était prophète, avec peut-être ici et là une dimension de docteur. Il avait un don d'encouragement, d'exhortation, de consolation, de générosité. Il était un excellent formateur. Et meneur, il est appelé apôtre aussi. Voilà donc aussi un des associés de l'apôtre Paul qui a pas mal de cordes à son arc. Donc même les définitions bibliques, nous n'allons pas voir ceci, nous devrions consacrer tout un week-end simplement à essayer de creuser chacune des définitions des dons, mais il faut nous souvenir que les définitions bibliques de chaque fonction se chevauchent, se fondent l'une dans l'autre, c'est un petit peu une sorte de fondu enchaîné. Ne faisons pas de cloisonnement étanche entre les dons. Par exemple, comment faire une distinction absolue entre ce que la Bible appelle un don de prophétie et ce qui est appelé dans d'autres listes un don d'exhortation? Manifestement, les deux se recoupent. Comment faire une différence absolue entre le don de présider et le don de gouverner? Manifestement, là aussi, dans l'analyse des dons, on se rend compte qu'il y a un chevauchement partiel, en tout cas, de ces dons. Dans Éphésiens 4, verset 11, dans une des grandes listes des dons majeurs, des dons ministères, dans Éphésiens 4, il est dit qu'il a donné, le Christ glorifié, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et là, la manière dont cette petite locution pasteur et docteur est construite dans le texte grec laisse entendre qu'on ne peut pas les dissocier l'un de l'autre. Il n'y a pas d'un côté strictement les docteurs, il n'y a pas de l'autre côté strictement les pasteurs. La manière dont le texte a été construit laisse entendre que ce sont deux dons qui s'interpénètrent. À savoir que on n'a pas le droit dans l'Église de Jésus-Christ, si véritablement on est conduit par le Seigneur, d'être un docteur sans être un pasteur. Un docteur qui n'aurait pas une dimension de berger serait terriblement barbant, pardon de le dire comme ça, pour l'Église à laquelle il s'adresserait. S'il n'a pas un cœur de berger qui vibre avec les besoins de l'Église, de ses frères et sœurs auxquels il s'adresse, s'il n'y a pas d'âme, s'il n'y a pas de cœur, si simplement il se contente d'exposer de manière sèche, mais avec même une grande virtuosité, les vérités de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne colle pas. Un véritable docteur doit avoir une dimension de berger. Et de la même manière, on ne conçoit pas qu'un véritable berger qui veut avoir le souci des vies, de choisir les bons pâturages, d'être vigilant quant aux faux docteurs qui se pointent ou qui vont surgir même parfois du milieu du troupeau local, on ne peut pas concevoir qu'il n'ait pas une fibre de docteur, qu'il n'ait pas une connaissance de la parole de Dieu, une connaissance de la parole de Dieu lue d'un bout à l'autre et méditée, étudiée d'un bout à l'autre. Mais simplement, il y a une dominante. Il y aura la dominante de docteur chez l'un, et il y aura la dominante de pasteur chez l'autre, n'est-ce pas ? Alors veillons, ceci est très important, vous avez certains croyants qui recevront de la part de Dieu davantage une sorte de ministère avec des dons qui s'apparentent au travail d'un médecin généraliste. Là où Dieu va appeler d'autres de ses enfants à un ministère avec des dons qui feront de lui davantage un spécialiste dans un domaine particulièrement pointu. Je crois que c'est très important de modifier notre vision dans ce domaine. Il arrive parfois que, effectivement, dans nos vies, nous soyons quelque peu troublés parce que nous avons l'impression que dans l'exercice de nos dons, il y a un chevauchement, il y a différents aspects, un petit peu comme dans les tempéraments. Vous savez qu'on parle de quatre grandes catégories de tempéraments, mais il est évident qu'on ne peut classer personne à l'intérieur de cloisons étanches d'un seul tempérament. Il y a toujours une interpénétration d'un, deux, voire des trois autres tempéraments, mais il y a des dominantes, simplement. Je le dis au passage, sans trop m'y arrêter. Alors maintenant, nous allons venir à un domaine essentiel, ce sera la troisième remarque fondamentale, c'est là-dessus que nous nous arrêterons ce soir pour aller bien nous reposer en vue de demain. Mais je tiens vraiment à terminer cette troisième étude sur cette dimension qui m'apparaît absolument essentielle, c'est peut-être la plus importante de toutes. Ce que j'aimerais souligner, je l'ai laissé vaguement entendre. Ce que j'aimerais souligner, c'est que le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, nous l'avons lu cet après-midi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi, la force intérieure. Ces différents éléments qui forment un tout, qui sont véritablement le caractère de Christ qui doit se reproduire en nous, le fruit de l'esprit doit absolument être au cœur de l'exercice des dons. Et c'est peut-être un des enseignements bibliques les plus oubliés dans l'Église de Jésus-Christ, parce que c'est le plus important. Qu'est-ce que je veux dire ? Le mobile, le moteur, le but de l'exercice des dons, c'est l'amour. Disons-le fortement. Et nous le disons d'autant plus fortement que lorsque nous considérons les quatre grands passages qui traitent directement de cette question, nous réalisons que chaque fois, ils sont situés dans un environnement qui laisse une place très claire à l'amour. Regardez dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous avons quelques exhortations entre les versets 6 et 8. Un choix de quelques dons que Paul met en avant comme exemple. Et puis, immédiatement après, nous avons une présentation de la vie chrétienne dans son aspect pratique, centrée sur l'amour. Et en fait, vous avez le témoignage du disciple de Jésus-Christ avec 12 facettes d'une sorte de de diamant, en quelque sorte, hein, d'une sorte de diamant de l'amour dans la vie chrétienne. Que l'amour soit sans hypocrisie, ça commence comme ça. Ayez le mal en horreur, il n'y a pas d'amour qui puisse cautionner le mal. Il faut tout lier à cette première affirmation que l'amour soit sans hypocrisie. Il faut lire toute la suite du texte en ayant toujours sous le regard cette première exhortation. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. L'amour authentique, c'est faire la différence entre le mal et le bien. Il ne cautionne pas le mal. Il ne se réjouit pas avec l'injustice. Il se réjouit avec la vérité. Nous l'avons lu il y a quelques instants. Par amour fraternel à Philadelphia, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. C'est un mot très chaud. Très très chaud, qui évoque même le caractère très affectif, très chaud, très affectueux dans les relations entre une mère et son enfant, par exemple. Soyez plein d'affection, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ça, c'est une marchandise rare aujourd'hui. Ayez du zèle, un amour zélé et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Par amour, donc, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Communiez littéralement aux besoins des saints. Communiez, c'est le terme qui a donné en français le mot communion. Hein, pourvoir aux besoins des saints, c'est communier. On commune avec ses sous. Hein, on communie avec ses sous. Pour nous, la communion, c'est souvent beaucoup plus restreint. Dans les Écritures, plus d'une fois, le terme communion est utilisé pour parler de gestion financière, de partage de ses biens avec les autres, de libéralité. Exercer l'hospitalité, littéralement, c'est même plus fort, c'est rechercher l'hospitalité. Soyez prêts à accueillir, cherchez les occasions d'accueillir chez vous. Recherchez l'hospitalité, on reverra ce texte un peu plus loin. Et ça continue, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, etc. Voyez, toute cette dimension d'amour, si vous allez dans 1 Corinthiens 12 à 14, c'est clair, hein, nous avons là la Marseillaise de l'amour, ce texte su, connu et si peu appliqué. Et puis dans Éphésiens au chapitre 4, même constatation. Éphésiens 4, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, verset 1er, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, etc. Élection de la paix, toujours le fruit de l'esprit. Et puis à l'issue du développement des dons majeurs et de leur raison de fonctionner dans le cadre de l'Église, il est dit au verset 15, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, etc. » Vous voyez, une fois de plus, il est question là d'amour, il est question du corps qui forme un solide assemblage à la fin du verset 16 et qui s'édifie lui-même dans l'amour. Et si vous allez dans 1 Pierre 4, même chose, le contexte, c'est l'amour. 1 Pierre 4, verset 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages, soyez sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Et là aussi, on ne sait pas comment traduire ce mot. Un amour, mais vraiment tendu comme l'élastique qui serait tendu à l'extrême, hein. Une tension d'amour, véritablement un amour qui soit à fond pour les autres. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Et puis il est question à nouveau de l'hospitalité, toujours cette unité des Écritures. Et là il est dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et l'hospitalité appartient au programme de l'amour. D'ailleurs, le terme grec, qui est rendu en français par le mot hospitalité, c'est littéralement l'amour des étrangers. N'est-ce pas? Quand j'accueille quelqu'un qui est étranger à ma propre cellule familiale, je veux lui signifier par cela que je l'aime, et que je l'aime en Jésus-Christ. Et c'est dans ce cadre-là, après ces deux ou trois exhortations toutes centrées sur l'amour, que aussitôt Pierre branche sur l'exercice des dons. Dans 1 Corinthiens 12, alors l'affirmation là est excessivement forte, puisque vous remarquez que la fin du chapitre 12 est une exhortation: aspirez aux dons les meilleurs, ou ayez du zèle pour les dons les meilleurs. On reviendra sur cette expression demain matin. Et je vais encore vous montrer l'autoroute, hein, une voie par excellence. Et ensuite, l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, va faire allusion à un certain nombre de dons qui avaient certainement la cote dans l'église de Corinthe. Il commence d'ailleurs par celui qui manifestement avait le plus la cote dans l'église de Corinthe. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Commence par là. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Oh, j'imagine les croyants membres de l'église de Jésus-Christ à Corinthe qui voyaient se dérouler sous leurs yeux ce parchemin et qui découvraient ces lignes et qui immédiatement comprenaient le sens profond du texte qui nous échappe complètement. Nous avons là, nous pensons, une belle image que nous pouvons comprendre, mais qui n'a pas du tout la même résonance, la même sonorité, la même tonalité, le même relief que pour les membres de l'église de Corinthe. Tout simplement parce que il faut savoir que la plupart des membres de l'église de Corinthe étaient donc païens un peu de temps auparavant, qu'ils se rendaient dans les temples païens de la région de Corinthe. Il y avait un grand temple avec des centaines et des milliers de prostituées sacrées. Et Corinthe était une ville vraiment corrompue, complètement pourrie. Très marquée par l'aspect corrompu des religions, des cultes païens, spécialement Corinthe. Quand on voulait parler de Corinthe, on avait des expressions typiques. On disait « parler à la Corinthienne ». Et « parler à la Corinthienne », c'était « bien parler ». Parce qu'à Corinthe, on parlait bien. Il y avait des philosophes, une école de philosophie, des gens qui parlaient comme ça. Alors, on comprend que dans l'église de Corinthe, on a eu tendance à copier le monde de Corinthe, et on donnait à la langue une place tout à fait prépondérante, parce que dans la société corinthienne, la langue avait une place prépondérante. Vous savez, c'est toujours comme ça. Si vous voulez bien connaître une église, et surtout avoir une idée des risques qu'elle court, regardez comment la population vit autour d'elle. Étudiez l'histoire locale. Et vous allez voir que vous allez retrouver dans l'église les problèmes liés à l'histoire locale. Et ceci est valable pour les églises de l'Apocalypse, les sept églises et dans quantité d'autres textes. Alors il y avait une autre expression très courante à Corinthe, on parlait de vivre à la Corinthienne. Et vivre à la Corinthienne, c'était vivre une vie absolument dissolue au possible. Et on sait que l'un des grands problèmes dans l'église de Corinthe, c'est que ces croyants qui avaient été lavés, qui avaient été purifiés, qui avaient été délivrés de leur homosexualité, de toutes leurs pratiques de déviance sexuelle et de tant d'autres drames, de passions douloureuses qui les asservissaient, étaient tentés par une méconnaissance de la véritable dimension de la grâce, de retourner vers le bourbier dont Dieu les avait sortis. Ça, c'était le double drame de l'église de Corinthe. D'un côté, une mise en évidence de dons qui leur apparaissaient prioritaires parce que dans la société corinthienne, ces dons-là, dans le paganisme, avaient beaucoup d'importance. Et puis, un retour vers ce paganisme parce que la société de Corinthe faisait pression sur les chrétiens de Corinthe. Et je le disais donc, lorsque les croyants lisaient l'apôtre Paul, là, au début du chapitre 13, immédiatement, certains d'entre eux se souvenaient de l'époque peut-être encore toute récente où ils fréquentaient les temples de Corinthe. Et notamment un temple qui se trouvait à très très peu de distance de Corinthe, qu'on appelait le temple de Dodone. Et au temple de Dodone, on pouvait aller pour essayer de consulter les divinités, pour avoir des réponses à ces problèmes. Et quand on allait à l'entrée de ces temples, la première chose que l'on voyait, c'était des marmites. Des grandes marmites d'airain creuses, très très proches les unes des autres, pratiquement à se toucher. On évoquait ses besoins auprès du prêtre qui était là de service. Le prêtre utilisait un gong, il tapait sur une des marmites, et comme les marmites étaient prêtes l'une de l'autre à se toucher, n'est-ce pas, les sons, les vibrations passaient d'une marmite à l'autre. Et le prêtre tendait l'oreille, et son rôle à lui, c'était d'interpréter les mystères des vibrations. Et c'est ainsi qu'il allait donner les réponses à ces gens, bien sûr, contre tout ce qui les faisait vivre, et largement et grassement vivre. Mais quand on sait que, aussi, dans ces temples, ces prêtres et ceux qui se prosternaient et qui entraient en extase en présence de ces divinités païennes, mais derrière lesquelles se cachait la puissance des ténèbres, quand on sait que ces prêtres et ces gens pratiquaient le parler en langue diabolique, n'est-ce pas, il y avait des parlers en langue. Vous imaginez combien ces croyants pouvaient comprendre le message de l'apôtre Paul. Ah oui, 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 c'est Dodone, je me souviens effectivement comment Dieu m'a délivré de cela, n'est-ce pas? Et alors là, l'apôtre Paul pouvait enfoncer le clou. Eh ben oui, parlez, parlez, parlez tant que vous voulez, mais attention, si l'amour n'est pas la dominante, si l'amour n'est pas le moteur, si l'amour n'est pas la source ni le but, eh bien votre baragouinage, ce n'est qu'un airain de Dodone qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et puis alors, il va prendre d'autres exemples et il va prendre les dons dans un ordre particulièrement voulu et croissant. J'aurai le don de prophétie qui apparaît, nous le voyons dans 1 Corinthiens 14, comme un don fondamental et qui n'est pas dans les Écritures, il faut le dire, d'abord et uniquement tourné vers une annonce d'événements particuliers d'avenir. Il est dit de manière très claire au chapitre 14 et au verset 3 que celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et nous devons rester dans le cadre de ce que dit la parole de Dieu. Et cela peut effectivement sous-entendre qu'un homme de Dieu qui fait cela par la grâce de Dieu, par la souveraineté de Dieu, peut, sans qu'ils s'en rendent compte même très souvent, apporter le message dont a exactement besoin une partie, en tout cas, de ses frères et sœurs qui sont membres dans la communauté locale. Sans qu'il ait besoin pour cela de dire « Ainsi parle l'Éternel » en prenant un ton tout à fait spécial, comme s'il était en train de descendre du ciel sur un nuage, n'est-ce pas? Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. La connaissance. Les écoles de philosophie à Corinthe. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Le don suprême, celui de sa personne. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et voyez-vous, ce qui me trouble, c'est que les dons spirituels sont une occasion de trouble dans l'Église. Sont une occasion de division. Qu'au nom de l'exercice des dons spirituels, en France, des centaines d'églises soient divisées. Par exemple, simplement sur la question du parler en langue. Et simplement parce qu'on refuse de se rendre compte d'évidence biblique. Et je dis bien d'évidence. Quelles sont ces évidences? Mais ces évidences, c'est tout d'abord que dans les évangiles, le seul passage dans lequel il soit question de parler en langue est un appendice à l'évangile selon Marc au chapitre 16, dont pratiquement tous les théologiens évangéliques aujourd'hui, pratiquement tous, s'accordent à reconnaître qu'il a donc été ajouté après et qu'il faut être prudent dans son utilisation. C'est un des rares textes ajoutés de cette manière et qui ne figure pas dans les manuscrits d'ailleurs les plus anciens. En dehors de ce texte, qui à côté d'ailleurs du parler en langue nouvelle, évoque d'autres miracles qu'on se refuse à placer sur le même plan, dans Marc 16, Jésus n'a jamais évoqué le parler en langue. Alors qu'il a parlé du Saint-Esprit, et alors que Jésus a donné dans Jean 14 à 16 des enseignements absolument fondamentaux sur la question du Saint-Esprit, les grands principes sur le Saint-Esprit, sur sa personne et son œuvre, vous les avez dans Jean 14 à 16. Ce que Jésus a dit a été ensuite repris, développé dans les épîtres, par ailleurs, n'est-ce pas, en conformité avec son enseignement. Alors ça, c'est important. Si vous lisez le livre des Actes, c'est-à-dire peut-être 25 ans de l'histoire de l'Église primitive, vous constatez que sur ces 25 années d'histoire de l'Église primitive, sur une étendue qui couvrait finalement pratiquement la totalité de l'Empire romain de l'époque, il n'y a que 3 allusions en tout et pour tout au parler en langue. Si vous considérez ensuite que l'apôtre Paul, cet auteur inspiré tellement généreux, prolixe, puisqu'il nous a laissé 13 des 27 livres du Nouveau Testament, n'a trouvé le moyen de parler de la question de la glossolalie, du don des langues, que dans 1 Corinthiens 12 à 14, pour 13 livres, qu'il n'en ait même pas parlé dans l'épître aux Romains, épître capitale, ni dans l'épître aux Éphésiens, encore une épître capitale, ça pose quand même une question à quelque part. Si vous réalisez qu'en dehors de l'apôtre Paul, aucun des autres rédacteurs inspirés du Nouveau Testament, l'apôtre Jean, le bien-aimé, le centenaire, le dernier survivant de cette équipe apostolique qui a reçu un ministère tellement particulier, tellement important pour toute l'Asie mineure, qu'il n'ait pas pipé un seul mot du parler en langue à la fin du dernier siècle de notre ère. Que le frère de Jésus, on s'entend, l'apôtre Jacques, que Jude n'en ait pas parlé non plus, qu'un Pierre, deux Pierres ne le mentionnent pas non plus, que l'Apocalypse ne le mentionne pas. Écoutez, comment avons-nous pu nous laisser tromper et manipuler par la puissance des ténèbres pour nous diviser sur quelque chose qui est si secondaire dans les Écritures? Dites-moi, comment? Lorsque dans les listes d'1 Corinthiens 12 à 14, d'abord dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul met le don des langues à la queue, et qu'il se hâte de dire « tous parlent-ils en langue » et sous-entendu la formulation grecque laisse entendre, et un bon français le comprend d'ailleurs très bien quand il lit le contexte, que la réponse est obligatoirement négative. « Tous parlent-ils en langue ?» Mais non, c'est pas possible. Et la formulation grecque, si nous avions besoin de le savoir, interdit de le comprendre de manière positive. « Tous parlent-ils en langue ?» Sous-entendu, non. Et qu'ensuite, l'apôtre Paul va utiliser le chapitre 14 totalement pour prouver que parmi les dons majeurs auxquels nous devons aspirer figure le don de prophétie, et que véritablement tout exercice du don des langues doit être entouré d'un certain nombre de précautions, je dirais, draconiennes. Et 1 Corinthiens 14 d'ailleurs sous-entend, et c'est intéressant, que dans ces précautions draconiennes, il y a un enseignement qui s'adresse à la femme en particulier, parce que la femme est davantage, a davantage la propension à ce genre de manifestation surnaturelle. Alors Dieu va dire quelque chose à la femme en particulier dans 1 Corinthiens 14 dans ce sens. Alors vous voyez, sans entrer dans une analyse de ce don, mais simplement ce sont des constatations, je dirais qu'un enfant qui lirait sa Bible plusieurs fois va finir par faire lui-même. Il n'est pas nécessaire d'être docteur en théologie. Il y a quand même dans les Écritures une loi des majorités et des minorités, et vous n'avez pas le droit de vous servir de textes tout à fait minoritaires pour vouloir en quelque sorte imposer quelque chose qui est à la frange des vérités essentielles à tout le peuple de Dieu. L'ennemi, mes bien-aimés, nous a trompés. Et cela ne veut pas dire que je n'ai pas de respect pour des frères et sœurs qui ont d'autres convictions. Mais je leur dis de la part du Seigneur, mais réfléchissez simplement à cela. Parce que ça, ce sont les Écritures. Ce n'est pas Maurice Decker qui l'invente, ce n'est pas moi qui trafique les Écritures. Vous pouvez, chacun d'entre vous, prendre votre Bible, passer une année comme je l'ai fait. Quand j'ai été troublé à l'âge de 20 ans par cette question du Saint-Esprit, j'ai fait quelque chose que nous devrions tous faire. J'ai pris un cahier, vierge, et j'ai lu ma Bible de la Genèse à l'Apocalypse, ce que je faisais déjà régulièrement, mais je l'ai fait en notant dans ce cahier tous les textes sur le Saint-Esprit. J'ai tous noté, les uns après les autres. Ça a pris des mois. Et puis, quand j'avais terminé de lire tous ces textes, je les ai analysés. Et de les reporter dans mon cahier, je les ai analysés. Et puis, j'ai acheté tous les livres qui existaient à l'époque en langue française et qui traitaient de la question du Saint-Esprit. Oh, mes amis, rassurez-vous, il y en avait très peu. Très, très peu. Et très rapidement, j'ai pu me faire une idée de la manière dont les auteurs avaient abordé leur étude. Je me suis rendu compte qu'un certain nombre d'entre eux avaient eu la sagesse d'étudier la Bible d'un bout à l'autre. Et ils avaient donc une pensée équilibrée sur la question du Saint-Esprit. Et je me suis rendu compte que d'autres, au lieu d'aller chercher dans toutes les Écritures, ce qui concernait le Saint-Esprit, s'était arrêté à certains textes qu'il privilégiait en dehors du contexte général des Écritures. Je me suis rendu compte, à l'âge de 20 ans, qu'il y avait là quelque chose de terriblement boiteux dans leur enseignement. Et c'est comme cela que Dieu a donné la paix dans mon cœur. Ça ne veut pas dire que dans des domaines qui sont à la périphérie de l'enseignement essentiel sur le Saint-Esprit, je n'ai pas évolué. Mais en ce qui concerne le noyau dur de mes convictions sur le Saint-Esprit dans les Écritures, la chose est claire. Depuis l'âge de 20 ans, et depuis l'âge de 20 ans, j'ai lu la Bible près d'une trentaine de fois, et croyez-moi, je continue à être convaincu en avançant de ce que je suis en train de vous dire, n'est-ce pas ? Voilà, je tenais à vous le dire au passage, parce que nous en arrivons à quelque chose de tout à fait essentiel. J'ai utilisé volontairement cet après-midi et ce soir le terme « don spirituel ». Le mot « don » d'ailleurs n'existe pas dans 1 Corinthiens 12. Les spirituels, sous-entendu les choses spirituelles, on peut le traduire de diverses manières. Mais l'expression « don spirituel » en réalité correspond à ce petit mot grec qui a été francisé et qui est devenu de la dynamite, justement, dans ce sens qu'il a divisé l'Église de Jésus-Christ. Et vous allez voir ce soir, assez rapidement, combien il est terrifiant de devoir penser que, avec un tel programme, ce mot ait pu tant diviser l'Église de Jésus-Christ. Parce que nous sommes en présence du petit mot grec « charisma ». Qui a donné charisme, charismatique, etc. Charisme. Les charismes. Nous parlons donc de l'Église locale, communauté de service, et qui exerce son service par le biais de charisme. qu'est-ce que les charismes? Eh bien, les charismes, ce sont les expressions, les résultats de la charis. Charisme, charis. L'apôtre Paul fait volontairement un jeu de mots. Et l'apôtre Pierre fera le même jeu de mots. Tout simplement parce qu'il veut que les Corinthiens comprennent qu'il y a un lien entre charisme et charis tout court. Prenons l'exemple de Romains 12, 6. Romains chapitre 12, verset 6. On le prend d'ailleurs déjà au verset 3 parce qu'il introduit par cette note suprême, par la charis, la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Ensuite, verset 6, puisque nous avons des charismes différents selon la charis qui nous a été accordée. Hein, puisque nous avons des dons différents, dit notre texte, selon la grâce qui nous a été accordée, le texte grec dit, puisque nous avons des charismes différents, selon la charis qui nous a été accordée. Si vous allez dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, comme de bons intendants, des divers charis de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le charisme qu'il a reçu. Vous savez, il y a beaucoup de jeux de mots comme cela dans les Écritures, dans le texte original, qui sont généralement très difficiles à rendre en français. Hein, ça, c'est le problème de toutes les langues quand on fait des jeux de mots. Mais vous remarquez quand même que dans ces deux textes majeurs, et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ont tenu à faire un jeu de mots. Pour dire, coucou, faites attention, vous avez là un message absolument essentiel. Alors vous allez me dire, oui, qu'est-ce que c'est que la charis? La charis, nous l'avons vu, c'est la grâce. La grâce. À l'origine, chez les Grecs, la beauté. Ce qui est gracieux. Ce qui plaît. Ce qui réjouit. Et il est vrai que pour les Grecs, qui étaient très attachés à l'esthétique, au corps, quand on voit la statue grecque, par exemple, la véritable source de la joie, c'était la beauté. La beauté. Et au fil du temps, un second sens est apparu. Lorsque, chez les païens, et dans ce monde qui était si cruel, un homme épargnait son ennemi, qui libérait un esclave. Les Grecs trouvaient ce geste tellement extraordinaire qu'ils l'appelaient charis. C'était la beauté même, la charis. La générosité qui surprenait. Et c'est ce terme que Dieu a voulu incorporer au langage néo-testamentaire. Il a puisé ce mot dans le langage de l'époque, mais alors il lui a donné un sens supérieur. Tout d'abord, la charis, c'est la beauté de Dieu. Dieu est beau. Bien sûr, il n'est pas beau physiquement. Il est esprit. Mais il est beau dans son caractère. Il est beau dans ses œuvres, dans ses manifestations. Et puis, cette beauté explose dans sa générosité. Dieu est un Dieu extraordinairement généreux. Et sa générosité atteint son sommet dans le don de Jésus-Christ. Cet amour est généreux, il ne calcule pas. C'est un amour qui, dans sa générosité, tend la main à l'ennemi. Nous connaissons ce beau texte de Romains 5, alors que nous étions les ennemis de Dieu. Dieu nous a tant aimés, n'est-ce pas, qu'il nous a prouvé son amour par le don de Jésus-Christ. Lorsque nous étions ennemi. Non seulement la grâce est un amour pour quelqu'un qui ne le mérite pas, mais c'est un amour pour quelqu'un qui démérite. Ce n'est pas un amour immérité, mais c'est un amour démérité, c'est-à-dire pour quelqu'un qui mériterait tout juste le contraire. La grâce de Dieu, la beauté de Dieu, la générosité inouïe de Dieu qui donne le meilleur gratuitement, une générosité surprenante. Alors, à partir de là, qu'est-ce que c'est que le charisme ? Eh bien, le charisme, c'est une expression de cette beauté. Lorsque je veux exprimer la beauté de Dieu, sa générosité, son amour surprenant, eh bien, le canal qui va me permettre de l'exprimer, c'est précisément le domaine des charismes. Le charisme est un canal, si vous voulez, une capacité de transmission de l'amour de Dieu. Mes amis, on utilise tous les jours le terme charisme, charismatique. Mais allez poser la question à tant de gens qui l'utilisent, demandez-leur, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et vous verrez que c'est un domaine dans lequel on ne sait pas. Mais ça modifie tout si je sais que en vous parlant ce soir, j'exerce un charisme de la part de Dieu. Croyez-vous que je puisse l'exercer n'importe comment ? Si je dois vous transmettre la beauté de Dieu, vous croyez que je peux vous transmettre la beauté de Dieu par un rictus épouvantable ? En hurlant avec colère ou je ne sais quoi encore ? En dénigrant ? En méprisant ? En divisant ? Vous croyez que c'est possible ? Il y a dans le Nouveau Testament 17 mentions du mot charisme. 16 fois chez Paul, donc une fois chez Pierre. Et il est intéressant de constater que Paul n'utilise pas toujours le terme charisme pour parler des dons spirituels. Dans Romains, au chapitre, dans 1 Corinthiens 7, pardon, l'apôtre Paul parlera du charisme du mariage. Quand je donne un séminaire sur le mariage, à un moment donné, je parle du charisme du mariage. Le mariage est une capacité toute particulière que Dieu donne à un homme et une femme qui s'aiment sous son regard de partager avec les autres la beauté de Dieu, la générosité de Dieu. Vous vous rendez compte ce que ça peut transfigurer notre vision du mariage ? Et l'apôtre Paul n'est pas en reste, il ajoute au charisme du mariage le charisme du célibat. Il dit que de la même manière, des hommes et des femmes sont appelés par Dieu à manifester, à communiquer, à partager la beauté de Dieu, la générosité de Dieu par le biais du célibat. Le célibat peut être un don de grâce, une expression de la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas notre thème. Mais ça nous donne envie d'y réfléchir, n'est-ce pas ? Et puis alors, il y a dans Romains 5, 15, 16, on va le laisser, mais dans Romains chapitre 6, verset 23, un texte que nous connaissons généralement, et c'est souhaitable par cœur, Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous allons le lire dans le grec maintenant, car le salaire ou la solde du péché, c'est la mort. Mais le charisme de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous savez, j'aime poser cette question, qui est le premier et le plus grand des vrais charismatiques ? Il ne faut pas le chercher dans l'histoire moderne. Le premier, le plus grand des vrais charismatiques, c'est Dieu lui-même. Il est l'exemple. Il est la source. Il est le moteur. C'est vers lui que nous devons nous tourner pour savoir comment exercer nos dons dans l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a précédés. Il nous a précédés dans le don suprême. Et le don suprême qu'il appelle ici la vie éternelle, ailleurs il dira que la vie éternelle est dans le Fils, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la vie éternelle, ce que dira l'apôtre Jean aussi dans la première épître de Jean, n'est-ce pas ? Donc, si nous voulons avoir une vision de la plus belle des beautés, du charisme de Dieu, nous devons réfléchir à la manière dont Dieu l'a exercé. Comment le charisme de Dieu, ce n'était pas du blablabla simplement ? Comment il s'est mouillé, comment il s'est donné, comment il a accepté de se dépouiller en quelque sorte en Jésus-Christ ? Comment Jésus-Christ s'est abaissé pour aller jusqu'à la mort de la croix, en notre faveur. Chaque fois que j'exerce un charisme, je dois regarder à celui qui est mon inspiration, à celui qui me donne aussi la capacité de le suivre. Je dois regarder à Jésus-Christ lui-même et à Dieu, le Père, qui nous a précédés dans l'exercice des dons. Donc, exercer des dons, c'est marcher sur les traces de Dieu en exprimant sa beauté auprès de mes frères. Et je prends ici cette image, généralement, si les dons sont les organes du corps, l'amour est le sang qui les alimente tous. Privés de sang, les organes sont inutiles, ils sont morts. Je termine en disant simplement que dans ce verset 23, là aussi, les croyants pouvaient bien comprendre à Rome. Surtout ceux qui s'étaient convertis en tant que soldats. Les soldats romains, membres de l'Église de Jésus-Christ à Rome, comprenaient immédiatement. Parce que, tout d'abord, Paul utilise un terme salaire du péché, mais qui est le mot solde. C'était un mot utilisé au sein du monde des soldats, quand le capitaine donnait la paye. Il utilisait ce terme. Mais quand il y avait un événement tout à fait particulier dans l'Empire, par exemple que tel corps d'armée remportait une grande victoire, ou encore quand c'était le jour anniversaire de l'empereur, alors le supérieur militaire disait aux soldats, « Eh bien, par ordre de l'empereur, vous avez droit à un charisme. » C'est-à-dire vous avez droit à un cadeau totalement immérité. Ça, c'est parce que c'est la grande fête, on a gagné la victoire, la bataille, etc. Donc, en plus de la solde, vous avez droit à un cadeau. Ceci, c'est pour la fête. Et c'est le même langage qui est utilisé ici. Dans la même famille de mots, vous en avez un autre. Les charismata, les dons, les expressions de la grâce, exercées En s'inspirant vraiment, en étant rempli de cet esprit d'amour, ces charismata sont source de kara. Kara. Oh, pas les kara, 18 kara, hein, pas ceux-là. C'est le même mot, mais au lieu que ce soit charis, c'est kara, C-H si vous voulez, A-R-A. Et kara, c'est un des plus beaux mots des Écritures aussi. C'est la joie. La joie. C'est de la même famille. La joie, c'est ce que produit la grâce. Quand elle est véritablement vécue, exprimée dans l'optique de Dieu, c'est-à-dire dans l'amour. Alors vous avez à partir de là un autre mot qui est de la même famille, c'est le mot grec qui a donné en français le mot eucharistie. Mais le mot eucharistie, hélas, a changé de définition. Mais il faut savoir qu'au départ, eucharistéo veut dire être reconnaissant. Exprimer sa reconnaissance, sa joie, ses actions de grâce. Et c'est un mot qui figure souvent dans le Nouveau Testament. Et dans ce sens, c'est vrai que la scène peut être un merveilleux repas de joie, mais pas dans le sens de la doctrine catholique qui va, hélas, beaucoup plus loin. Alors là encore, si véritablement j'exerce un don sous le contrôle du Saint-Esprit, dans cette perspective de l'amour de Dieu, de communiquer, de transmettre quelque chose du cœur même de Dieu vers les autres, mes amis, il va y avoir reconnaissance, il va y avoir action de grâce, il va y avoir joie. Et quand je dis joie, action de grâce et reconnaissance, je ne veux pas dire qu'il ne va pas y avoir des larmes. Il va y avoir repentance, il va y avoir douleur, ça ne va pas être facile. Mais le produit final de cet exercice du Saint-Esprit dans le cœur du croyant ainsi arrosé va produire un fruit paisible de justice, de joie, de paix. Et puis enfin, encore un dernier mot. Inutile de donner, exercer les dons, c'est donner, nous l'avons vu cet après-midi. Inutile d'exercer les dons, de donner sans pardonner. Il se trouve qu'en grec, vous avez à côté de charisme, charis, chara, eucharisteo, vous avez un verbe, charizomai. Charizomai signifie exercer la grâce. Et c'est un des mots grecs qui est utilisé, je crois, une douzaine de fois, ou un peu plus, dans le Nouveau Testament, pour évoquer le pardon. Quand j'exerce la générosité de Dieu à l'endroit de celui qui m'a peiné, j'exerce la grâce, charizomai. Alors, exercer des charismes, tout en ayant de la haine, de l'amertume, de la jalousie, de l'orgueil, un esprit de supériorité, ne peut faire que des dégâts. On ne peut véritablement donner sans pardonner. 12 fois dans le Nouveau Testament. Voilà, nous arrêtons là. Le fruit de l'esprit est présent à chaque page de l'Écriture et doit absolument présider à l'exercice des dons. Je vous pose simplement cette question. À quoi reconnaissez-vous un sapin à Noël? Est-ce que vous reconnaissez un sapin à Noël aux boules qui y sont accrochées? Non. Vous savez qu'on reconnaît un sapin à d'autres qualités, et notamment à son fruit, qui porte des noms précis en fonction du type d'arbre, n'est-ce pas? Il ne vous viendrait pas à l'idée de dire « ceci est un sapin parce qu'il y a des boules ». Parce que sinon, on pourrait peut-être l'appeler chocolatier si les boules sont en chocolat. Vous comprenez? Il faut que dans notre exercice des dons, nous ayons cette même sagesse. Lorsque vous voulez discerner la qualité de service d'une personne dans le corps de Christ, ne vous arrêtez pas aux dons. Arrêtez-vous aux fruits. C'est ça ce qui permet de déterminer la qualité. Ce n'est pas le fait que je vous ai parlé, ce n'est pas le fait que le Seigneur m'ait peut-être doué pour cela. C'est l'esprit dans lequel nous vivons l'exercice de nos dons, le fruit de l'esprit. Et pas seulement quand on est sur la chair de prédicateur, mais dans notre vie de tous les jours. Et ceci est valable pour l'exercice de chacun de nos dons. Si tu maltraites ton épouse ou ton mari, tu peux exercer tes dons de manière admirable. Ils sont des cadeaux gratuits. Ce sont les cadeaux les plus gratuits qui soient. Mais ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Et il y a aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, dans le monde, des hommes qu'on considère grands parce qu'ils ont des capacités extraordinaires de communication et qui pourtant en même temps vivent des vies personnelles absolument scandaleuses. On les admire à cause de leurs dons. On devrait les discerner à partir du fruit de l'esprit. C'est un avertissement et c'est un bon point de repère. Nous voulons prier. Nous te remercions, Père, parce que nous avons pu ce soir parler de toi, parler de ta beauté, parler de ta générosité, parler de ta charisse, de ta grâce et de ton charisme suprême. Le don de ton Fils Jésus-Christ, la vie éternelle communiquée à nos cœurs, à nos personnes tout entières par le Saint-Esprit. Et nous voulons nous prosterner ce soir et t'adorer pour ta beauté. C'est vrai que plus nous te connaissons, plus nous sommes touchés par la beauté de ta personne
et cette expression de ta beauté dans tes œuvres. Nous te prions, afin que non seulement tu nous mettes les uns et les autres en œuvre, au travail, beaucoup plus agissant peut-être que nous l'avons été jusqu'à présent, mais que nous ne dissocions pas l'exercice des dons de sa source. Seigneur, apprends-nous, par le travail du Saint-Esprit en nous, par la croissance de notre nouvelle nature, par ton règne, ta seigneurie dans nos cœurs, apprends-nous à véritablement exercer la grâce, à transmettre de toutes sortes de manières qui te plaisent ta beauté, ton amour, ta générosité inouïe, pour que d'autres autour de nous te trouvent et pour que nos frères et sœurs autour de nous, quelle que soit leur situation, puissent être encouragés, édifiés, repris de la bonne manière et puissent grandir aussi. Tu veux ce soir nous accompagner, nous aider comme Marie jadis et tant d'autres, à serrer, à repasser dans notre cœur tout ce que nous avons partagé. Seigneur, ne permets pas que cela devienne une sorte de jugement contre nous parce que nous aurons entendu, que nous aurons considéré la valeur et que nous n'aurons peut-être rien fait. Intègre ce message à nos chromosomes spirituels, que cela entre dans le concret de nos attitudes, de notre quotidien. Aide-nous à ne pas être simplement des théoriciens, mais à vivre par le Saint-Esprit ces si belles réalités. Nous avons besoin de toi pour cela, nous faisons appel à toi, nous avons soif d'être dépendants de toi. Seigneur, tu es notre oxygène, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Alors dans ta grâce, équipe-nous, fortifie-nous et développe en nous ce fruit de l'Esprit. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.